qui pensent que des villes trop peuplées, c'est pas bien, que on va être de plus en plus nombreux et que ça pose des problèmes, etc. Enfin, je fais vraiment partie de ceux qui pensent à l'inverse de vous.
Voilà. Alors, écoutez, ce qu'il faut comprendre...
Je sais pas si on peut appeler ça de la pensée, d'ailleurs.
Non, mais écoutez, c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, ils peuvent être spectaculaires, hein, puisqu'il y avait 1 milliard 600 millions d'humains en 1900, nous serons sans doute 7 milliards en 2012...
9 milliards en 2050, si tout se passe bien.
Ah, 9 milliards en 2050, ça s'est pas encore fait.
Ah, c'est ce que dit le monde diplomatique,
oui,
ça.
Non, mais le monde diplomatique a raison. Il pourrait y avoir 9 milliards en 2050. Hein, pour qu'il y ait 9 milliards en 2050, ça suppose qu'il y ait continuation de l'espérance de vie. Donc ça suppose que l'humanité respecte un certain nombre de comportements hygiéniques. Ça suppose aussi, bien sûr, d'améliorer les productions vivrières agricoles pour pouvoir nourrir cette population. Ça suppose qu'il n'y ait pas de guerre mondiale. Et ça suppose aussi qu'on fasse du développement durable. Parce que si on ne respecte pas le développement durable, eh ben, on aura une surpollution qui sera mortifère pour les populations. Donc vous voyez, l'histoire, elle n'est absolument pas écrite. Hein. Elle dépend de ce que feront les sociétés d'ici 2050. En revanche, c'est vrai qu'il faut comprendre comment on a multiplié par 4 la population depuis un siècle, eh bien, c'est le résultat de ce qu'on appelle donc la transition démographique, c'est-à-dire essentiellement du progrès dans l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, l'espérance de vie à la naissance dans le monde, en moyenne, elle était inférieure à 40 ans. Aujourd'hui, elle a dépassé 70 ans. Donc à partir du moment où chacun d'entre nous est plus longtemps locataire sur la Terre, eh bien à chaque moment, nous sommes forcément plus nombreux. Donc il faut bien comprendre que la croissance démographique, c'est le résultat d'un progrès sanitaire, un progrès hygiénique, progrès même en matière d'amélioration moyenne de la pénibilité du travail. Donc en moyenne, c'est vrai, nous avons des contemporains dont les conditions de vie se sont améliorées. Vous rappelez que Bismarck, à la fin du 19e siècle, quand il a voulu inventer les retraites, il a dit aux spécialistes « à quel âge je mets les retraites ?» Ben, il a dit « mettez-les à 65 ans, parce qu'à 65 ans, tout le monde est usé, donc ils vont vite mourir. » Donc du coup...
Ça ne va pas nous coûter trop cher.
Ça ne va pas nous coûter trop cher. Donc c'est ça qu'on ne se rend pas bien compte, c'est que l'espérance de vie augmentée, et surtout l'espérance de vie sans incapacité augmentée. Ça, c'est un point important. Ce qui fait que le phénomène majeur et totalement inédit du 21e siècle, ben, ce sera le vieillissement de la population. C'est-à-dire le fait, donc ce ne sera pas la soi-disant explosion démographique qui n'a jamais existé, mais ça sera le fait que la proportion des personnes âgées atteindra des niveaux inédits selon les pays et selon les évolutions. Et c'est d'ailleurs un des talons d'Achille de la Chine, parce que la Chine fait partie des pays, en raison de sa politique de l'enfant unique, qui a été une politique erronée, décidée par des pouvoirs qui ne comprenaient pas les mécanismes des processus démographiques, qui va entraîner effectivement un survieillissement de la Chine. Et donc l'un des phénomènes nouveaux du XXIe siècle, c'est qu'à partir de 2030, la population chinoise va diminuer. Et donc le pays qui est aujourd'hui le plus peuplé au monde, la Chine, va se voir devancé par l'Inde, ce qui évidemment pourrait avoir des conséquences géopolitiques. Vous avez vu que l'Inde a demandé déjà un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, que chaque fois qu'on a un ministre français qui va en Inde ou à chaque fois qu'on reçoit un ministre indien, la France n'hésite pas à dire « Ah oui, mais nous, on soutient la demande de l'Inde d'aller au Conseil de sécurité ». Et donc, il va falloir forcément réformer l'ONU compte tenu de ses dynamiques démographiques. On l'a bien vu, si vous voulez, en Amérique latine aussi. Le grand changement en Amérique latine, c'est qu'en 1950, l'Amérique du Nord est plus peuplée que l'Amérique latine. Compte tenu de la logique de la transition démographique, ben aujourd'hui, c'est l'Amérique latine qui est beaucoup plus peuplée que l'Amérique du Nord. Donc le Brésil a dit, bon, ben moi, je veux... La doctrine Monroe, elle est morte comme ça. Vous rappelez la doctrine Monroe qui voulait que les États-Unis considèrent l'Amérique latine comme son protectorat. Bon, à partir du moment où l'Amérique latine est devenue importante d'un point de vue démographique, bon, elle a dit, mais...
Là, on entre dans les effets géopolitiques et politiques de la démographie.
Oui. Qui sont tout à fait essentiels. Hein, parce que toute évolution géopolitique n'importe où sur la planète prend en compte des paramètres démographiques. Je ne dis pas que le paramètre démographique explique à lui seul tout événement géopolitique. Par contre, il n'y a aucun événement géopolitique qui ne nécessite pas la prise en compte du problème démographique dans tous ses aspects.
Alors quel est le rapport, justement, je reviens à ma question du début et à ce papier du Diplo là, de ce mois de juin, sur la jeunesse. Si les jeunes sont plus nombreux, dans quelle mesure ça va influencer la politique et le mouvement du pays ?